Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
De voter. Et j'espère que toutes les femmes auront rempli leurs devoirs.
Concernant les parents,
aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes.
Dominex, libère la femme. Libère la femme. Libère la femme.
Vous aviez 20 ans.
Bah, qui on va fréquenter? Les grands-mères?
Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Marion et Elodie, et aujourd'hui, nous allons chez Dora.
Je vous ai montré la photo de Lily.
Oui.
C'est, comme je vous l'ai dit, c'est incroyable. On ne prenait jamais de photos comme à l'époque, en 1944. J'étais... Et il se trouve que quelqu'un nous avait pris en photo, donc la veille de notre arrestation, et nous a rendus quand on est rentrés. Donc il y a Liliane, et il y a maman, et il y a nous.
Moi j'ai monté.
Bah oui,
et bien
oui.
Alors je vais le prendre.
Aujourd'hui, on replonge dans la vie de Dora, pour ce deuxième épisode qui lui est consacré. En créant Mamie dans les orties, notre désir était de donner la parole à celle que l'on a trop peu écoutée. Nous ne cherchons pas à établir une vérité. Elles racontent leur histoire et nous partageons leur vérité. Peut-être y aura-t-il des incohérences et des oublis. Ce témoignage est celui de Dora, tel qu'elle a choisi de nous le livrer. À la fin du premier épisode, nous sommes à Pau en 1944 et la famille Golan vient d'être arrêtée par la Gestapo. Après leur séjour en prison, Dora et sa famille sont déportées.
On est déporté en Haute-Silésie. Ensuite, de Haute-Silésie, donc à Auschwitz. Je veux monter dans le camion et le SS qui est là me dit « Pas toi !» Puis je sens qu'il insiste. Alors, je m'en vais, mais lui me sauve la vie. Moi, je ne le sais pas encore. Et Liliane et maman, quand nous sommes arrivés au camp, on demande que les gens qui sont fatigués monte dans le camion, on emmène, alors on voit des femmes âgées, ou des femmes, les femmes avec des enfants, ou les gens âgés montent dans le camion. Et moi j'avais demandé, en arrivant au camp, j'avais demandé à la bonne femme, je crois l'appeler la Blokova, celle qui dirigeait le bloc, je lui dis, comme maman était montée dans le camion, je lui demande, je comprenais pas beaucoup, je parlais, j'avais appris l'allemand, donc je trouvais facilement, j'étais première en allemand, et de dire que je trouvais facilement les mots. Et je lui demande où sont, je dis maman et ma petite sœur, nous sommes arrivés, sont montées dans le camion, quand est-ce qu'elles vont arriver? Alors, elle me regarde, elle ricane un peu, puis elle ouvre une espèce de petite fenêtre, une lucarne, puis elle pointe le doigt vers une cheminée avec du feu. Imaginez, on ne peut pas, parce que. Mais, aussi bien Mira que moi, puisqu'on elle l'a dit après, on a senti que on nous appuyait très fort sur les sommets, on s'est senti très mal. Mais on n'a pas pu imaginer que ça pouvait être ça. Mais on a compris qu'il se passait quelque chose.
Nous n'en saurons pas plus sur ces heures terribles où Dora réalise que sa mère et sa sœur Liliane sont mortes. Avec beaucoup de pudeur, et une force lumineuse, Dora nous parle ensuite du quotidien dans les camps, en plaisantant sur des anecdotes pour mieux faire passer l'horreur.
J'avais un sac à main. Je ne voulais pas le donner, puisqu'il était à maman. Je ne voulais pas. Alors, pour me punir, on m'a mis la tête dans le pétrole, ça puait, et on m'a passé le, on m'a tondu. Là, j'ai pleuré parce que j'ai encore le contact de, je le sens. Et après avoir pleuré, m'être vue dans une, il y avait un carreau cassé dans ce qu'ils appelaient les toilettes, je ne sais même pas ce que c'était, enfin les carreaux cassés, des courants d'air. Et ma sœur, elle semblait, mais Dora, tu peux pas savoir ce que t'es mignonne quand même. Et les filles qui me consolaient, moi. Et puis tout d'un coup, j'ai dit, eh ben c'est fini. Je me suis dit, je ne pleurerai plus.
Combien de temps tu es restée
15 mois.
15 mois,
oui. Alors, quand... Ça vous paraît un siècle, hein, dis tout de suite. Et puis j'ai beaucoup chanté. Ça, c'est fou ce que j'ai pu chanter dans les camps. Quand on creusait, moi je chantais. Mais il y avait le dimanche, je me gratte dès que je parle de ça, parce que c'était le contrôle des poux. Mais comme on m'avait rasé, donc moi je risquais. Les filles regardaient bien, comme elles appelaient ça, les insolents, c'était mes poux. Tu comprends, Dora, il ne s'agit pas qu'un insolent se promène, tu te rends compte, qu'à cause de cet insolent... Alors, les filles entre elles se cherchaient les poux, mais moi je les cherchais aussi, enfin, dans le sens propre du mot. Hein. Et puis, ce que j'ai adoré, c'est le bruit de chaque poux qu'on écrase. Moi, je me mettais sur le bord du fossé, puis les filles étaient dedans, elles creusaient, elles décreusaient. On préparait la route qui devait nous emmener directement au four crématoire à la chambre à gaz. Bon. Alors, on pelletait, puis on dépelletait beaucoup. Hein. Puis nous étions toujours. Et il y a un jour un prisonnier allemand, oui, qui vient et qui comprend pas, il n'est pas au courant de ce qui se passe. Il me voit sale, puisque on était déjà depuis un bout de temps là. Et puis il me dit mais quel âge as-tu? Il me dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il était ignorant de. Il venait pour nous montrer comment on creuse. Alors. Il court à son... Il me donne un sandwich, un énorme sandwich. Et je sais que ma première pensée, ça a été si je pouvais le garder jusqu'à la liberté en souvenir. Je ne l'ai plus revu. À mon avis, il a dû être dénoncé. Bon, et puis alors donc, là, il y a eu... Quand nous sommes arrivés, donc, on a fait ce travail de terrassier, c'était l'horreur aussi. C'est là où j'ai connu Marceline, c'est là où j'ai connu Simone Veil. Simone Veil est arrivée un mois avant moi avec Marceline. Et donc, quand je suis arrivée, Marceline tout de suite m'a accueillie. Alors, elle m'a dit, écoute, c'est dégueulasse ce qu'on vous donne ici. Mais si tu savais quand, d'ici quelques deux ou trois fois, comme tu trouveras que tout est bon, tu ne jettes rien. Tu trouveras, car c'est comme ça qu'on arrive à vivre. Et on était très liées toutes les trois. Et on a... Simone était avec sa mère. Sa mère est d'ailleurs morte dans ses bras. Simone était vraiment très belle. Et à l'époque, on ne rasait pas encore. Et moi, j'étais la seule qui avait été rasée. Alors, les filles me plaignaient pour ça, puis elles étaient encore plus gentilles avec moi, parce que j'avais plus de cheveux. Mais alors là, tout de suite, on a fait un groupe. Chacune avait en elle quelque chose de fort pour surmonter. On n'avait pas accepté l'idée d'être des esclaves qu'on allait envoyer ensuite ou crever ensuite ou dans les chambres à gaz. Alors, c'était notre façon à nous de nous révolter. Et un soir, avec Mira, ma sœur, on n'en pouvait plus. On était vraiment à bout de force. Alors, il y avait les fils de fer barbelés qui nous entouraient. Beaucoup s'étaient jetés dessus pour se suicider. Alors, on décide avec Mira, on dit, d'un commun accord, il n'y a pas l'une qui disait... Je dis à Mira, est-ce que tu peux... Elle me dit, non, j'en ai marre. Elle dit, je sais que tu penses... Je dis, écoute, Mira, tant pis. Demain, on va sur les fils de fer. On dort très mal toute la nuit, on dort, de toute façon, on ne dormait jamais très bien, enfin, on dormait un peu quand même. Et puis, tout d'un coup, je pousse Mira, elle me dit, je sais ce que tu vas me dire, on n'ira pas. La vie était plus forte. On avait l'impression, je crois qu'à ce moment-là, c'était l'idée. On était comme lâches, on allait mourir. Puis on aimait trop la vie. Donc ce qui prouvait, c'est qu'on aimait encore, on avait encore, il nous restait encore une certaine force pour la vraie vie. Donc on était encore des êtres humains. Un jour, on nous a demandé si on voulait aller pour une portion de pain de plus pour récupérer des vêtements. Alors on s'est dit avec Mira, on va y aller. Récupérer des vêtements, peut-être qu'on pourra en garder même pour nous, on verra. Puis nous sommes allés là-bas. Et quand on est allé là-bas, j'oublierai jamais cette image non plus. Il y avait, on voyait la file de gens, nus déjà, qui se dirigeaient donc, femmes et enfants, qui se dirigeaient certainement vers la chambre à gaz. Et quand on est arrivé vers les vêtements étaient encore chauds. Alors on a dit, on a montré bien sûr avec rien. Donc là on a touché, même si on avait pu les porter, quand les filles nous ont dit, il n'en était même pas question. On a pu toucher une vie qu'on avait tuée. Et il y a eu un moment que je n'oublierai jamais. Dans la nuit, il y a eu un appel, toutes les blocs sont sortis. Et on nous dit, il faisait froid cette nuit-là. Il y a une femme qui se trouve là et qui nous dit, ce soir, vous serez tous punis, vous n'aurez rien à manger, parce que une telle et une telle s'est évadée. Donc on était privés. Puis on nous a fait rentrer dans le bloc. Effectivement, nous avons été privés de nourriture, on n'en avait déjà pas beaucoup. Cette nuit-là, on ne nous a pas donné à boire. Deux jours après, il y a tous les blocs sont dehors et on vient nous présenter une femme qui va mourir, qui est là, qui a les mains attachées derrière le dos. Quelqu'un a pu lui glisser une lame de rasoir dans les mains. Elle a les mains derrière le dos et les SS allemands, on vous présente une femme qui a voulu s'enfuir et qui va bientôt mourir, mais pas d'une mort facile. À ce moment-là, elle nous hurle, courage, courage, vous serez libre bientôt, et pof, elle tombe. Elle savait qu'elle était, elle s'était, et comme elle s'était ouvert les veines, ils l'ont emmenée au Révire. Le Révire, c'est ce qu'ils appelaient l'hôpital, pour la guérir et pour l'envoyer à la chambre à gaz par la suite.
Pendant ces 15 mois, tu es restée avec Mira.
Toujours.
Et ça c'est incroyable quand même, non?
Ah non, parce non, qu'on ça vous séparait. On vous séparait simplement. Quand on arrivait, on vous séparait de ceux qui ne pouvaient pas travailler, on vous séparait des hommes.
Et les femmes, c'était quoi? Vous aviez une sorte de solidarité dans votre camp?
Est-ce que
vous...
Toutes, non. Pas du tout. On était en groupe, mais la solidarité existait par tout petit groupe. On était très fatigués, comme je vous l'avais dit, Mira et moi, on voulait se suicider, on ne s'est pas suicidé. Puis en définitive, on est arrivé au Révire. Ce qu'on appelait le Révire, c'était l'antichambre de la mort, tout simplement. Mais on s'était dit, ça y est, on avait voulu se suicider, on ne s'était pas suicidé, on avait dit les vides. Mais on était enfin dans des lits, ce qu'on appelait les koyas, peu nous importait. Alors, on avait un début de typhus, moi je ne sais plus ce que j'avais. La porte, je ressens encore, la porte, je ressens ce que j'éprouve. La porte du Révire s'ouvre. Il y a un air glacial, je peux dire glacial, qui pénètre dans le Révire. On nous fait des... Et Mengele rentre et il nous montre nos deux koyas, les deux lits, ma sœur et moi. Donc, on se lève, on a une couverture sur le dos, et on sait ce que ça veut dire. Mengele est venu, il nous a indiqué, on va mourir. Alors, je me lève tout d'un coup, mais c'est pas du courage, hein. C'est autre chose. C'est peut-être au contraire. Je ne veux pas mourir, ou si je vais mourir, je vais retrouver ce que j'aime. Je sais pas. Enfin, toujours est-il, ma soeur n'arrête plus de pleurer, elle croit que je suis devenue folle. Et je chante trois chansons. J'adorais Edith Piaf. Et j'adorais une chanson qui s'appelle « Le voyage du pauvre nègre », l'histoire d'un nègre que l'on met dans la soute et qui, je trouvais que on ressemblait, nous, à ce pauvre nègre qu'on jette dans l'eau, et dans l'eau, il chante « Monsieur, bon Dieu, toi pas gentil, moi pas vouloir quitter pays, mais viens, bon Dieu, viens mon secours, et puis fais-moi. » Je commence par chanter cette chanson. Et ma sœur est toujours là, elle pleure, mais elle comprend. Elle se dit, ben... Et puis, ensuite, je chante une chanson qu'on m'interdisait à la maison de chanter, mais que j'adorais. Une chanson de Zara Lender, à l'époque célèbre. Nur nicht aus Liebe weinen. Je me prenais pour une tragédienne, et je pleurais quand je la chantais. Ne pas pleurer sur l'amour, tu parles. Et maman me défendait de chanter cette chanson. Puis tu comprends pas un mot que c'est que cette chanson. Non. Je chante. Et puis donc j'avais chanté Le voyage du pauvre nègre. J'avais chanté qu'est-ce que j'ai chanté pour commencer? Ne pas pleurer sur l'amour. Le voyage du pauvre nègre. Et ensuite, Aïdi chez mamé. Et je crois que ces trois chansons avaient vraiment. Elles me sont venues à l'esprit comme ça, je n'ai pas cherché ce que je voulais chanter. Est-ce que j'avais envie de chanter? On allait mourir. On nous avait. Mengele était rentré dans. Et Mira pleurait, mais Mira me regardait, ne comprenait rien du tout. Et je pense que si j'ai chanté ces trois chansons, Nur nicht aus Liebe weinen, c'était peut-être pour me rappeler ce que m'avait dit maman, ce qu'elle m'interdisait. Le voyage du pauvre nègre, c'était sûrement parce que je nous comparais, et puis Aïdi chez mamé, et ben c'était maman à tout à l'heure. Ça pouvait être que ça. J'ai à peine fini. La porte du révir s'ouvre. Kein gaz, mère, il n'y a plus de gaz. Donc on ne peut plus nous gazer. On était prêtes à être gazées. Et au même moment, c'est la libération des camps. Donc on est libérés. C'est comme dans le film, je ne sais plus si vous aviez vu un film, quand il a, c'est soi-disant les camps, mais ce n'est pas les camps, et il est avec son fils.
La vie est belle.
La vie est belle. J'avais trouvé ce film extraordinaire. Extraordinaire. Moi, des amis m'avaient emmené et m'avaient dit, Dora, tu viens avec nous, mais peut-être que ça va te choquer. Alors, beaucoup plus jeunes que moi, ces amis. Et j'ai trouvé que c'était splendide d'arriver à émouvoir avec, sur un sujet qui est dramatique. Je trouve ça fantastique,
oui.
Parce qu'on est très ému, on est très touché.
Après la libération du camp d'Auschwitz, le calvaire des déportés continue. Dora et Mira entament alors un long et difficile trajet pour rejoindre leur pays.
C'était le camp de résistantes françaises. Ça va me revenir. Et alors, on avait très soif. Et j'ai dit à Mira, écoute, on venait de marcher des centaines de kilomètres, dormir dans le foin. Il y en a qui ont préféré rester, nous, on s'est dit, et qui ont été libérés par les Russes. Les pauvres, elles sont rentrées beaucoup plus tard que nous en France. Et alors, ce jour-là, j'avais très soif, et j'ai Ravensbrück, on ne nous gardait pas. Et j'ai dit à Mira, écoute, je vais lui demander un verre d'eau. On était sales, on sentait mauvais, je ne sais même pas expliquer. On était... Et puis pouilleuse aussi. Alors, je rentre, et puis tout d'un coup, je rentre dans ce camp, dans ce bloc. Ces blocs, ce sont des résistantes, avec toutes ces femmes qui sont d'une propreté. Et tout d'un coup, je prends conscience, quand j'arrive là-dedans, ce silence... Je me sens redevenue une Dora Golan, mais sale. Et j'ai une espèce de honte. J'avance tout doucement. Et il y a une femme qui est assise, les jambes pendantes. Je vais vers elle. Et puis, elle me dit, vous venez d'où? Alors, je lui dis, d'Auschwitz. Vous êtes à Auschwitz parce que vous êtes juive? Je dis oui. Alors, à ce moment-là, elle s'adresse à toutes les filles et elle dit, regardez ce qu'ils osent faire à des êtres humains sous prétexte que ceux-là sont juifs. Elle me serre la main, elle se présente. Moi, je dis Dora Golan. Elle se présente et je me suis sentie. J'ai oublié ma crasse. J'ai tout oublié et tout d'un coup, j'étais quelqu'un qui avait un prénom. On me disait bonjour madame, bonjour mademoiselle. On me parlait comme un individu et non pas. J'étais redevenue un être humain. Ils ont pu faire ce qu'ils voulaient. On n'a jamais oublié, nous n'avons jamais oublié que nous étions avant tout un homme, une femme, un être humain. On est dans les camps américains, ils nous distribuent du chocolat et c'est un chocolat qui rend terriblement malade, nous n'avions jamais mangé. Et il y a un capitaine qui m'appelle dans son bureau, d'Américain donc. Les Américains n'arrêtaient pas de nous dire « Don't cry, baby ». On passait notre temps à pleurer. Et quand j'arrive dans le bureau du capitaine, il me regarde, il me demande mon âge. Puis je sens qu'il est bouleversé. Et il me dit « Écoute, vous n'avez rien mangé, ce chocolat ?» D'abord, je ne sais pas pourquoi, il ne faut rien prendre. On va vous donner beaucoup de choses, ne mangez rien pour le moment, vous allez être très malade, vous pouvez en mourir. Quel âge as-tu? Ben écoute, c'est formidable, bientôt tu vas retrouver. Je lui dis, ben non, tout le monde est mort. Il dit, il ne faut pas dire ça, tu ne sais rien encore.
Bon. Et après la libération, donc après une fois que tu es rentrée en France?
Une fois que nous sommes, alors après la libération, l'après, vous savez que je nous compare un peu à un immeuble. Ben, la fondation était partie. Quand nous arrivons, on arrive à Pau, nous. Tous les gens qui avaient été déportés passaient par l'hôtel Lutetien. Et moi, on nous avait donné des chambres, d'ailleurs. Nous, on ne pouvait même pas nous allonger sur le lit. On était, ma sœur et moi, on s'était mis par terre, parce qu'on ne remet pas sur un lit, c'était pas possible. On ne pouvait pas, c'était trop mou, on n'en avait pas l'habitude. Et je me souviens, je dis à Mira, écoute, je descends, tu me rejoins, qui sait, peut-être qu'on verra quelqu'un. Alors Mira, et il y a un type qui vient vers moi qui me dit, tu n'es pas la fille de Golan, Dora Golan? Je dis, oui. Oh ben, oh là là, qu'est-ce qu'il a pu nous parler de toi, ton père Pierre-Hinton? D'ailleurs, il est mort. Alors je le regarde, je lui dis, alors écoutez-moi bien, tu sais, moi, dans mon cœur et dans ma tête, mon papa n'est pas mort. Si ma sœur va descendre, si par hasard, vous lui dites un mot, je suis capable de vous arracher les yeux. Tu vois, je vais arriver au nombril, moi. Et on est à table et on bavarde. Mira dit, quand on verra papa. Puis j'en peux plus, moi, de l'entendre. Alors à ce moment-là, je lui dis, écoute, Mira, je vais te le dire. Papa est mort. Et au même moment, je n'ai pas fini ma phrase, que le téléphone sonne. Et voilà ce qui se dit à l'autre bout de l'appareil. Il faut absolument qu'on vous retrouviez des traces, quelles qu'elles soient, de Dora et Mira Golan. On est avec David, il attend les trains. Et sinon, il faut qu'on le surveille. Il faut lui dire la vérité parce que sinon, c'est parce qu'il risque de se suicider.
David, c'est son papa. Lui aussi espère retrouver sa famille.
Ça a fait quoi de revoir ton papa?
Ah ben, ça a été quelque chose d'extraordinaire. On a ramené une espèce de panier, je ne sais pas pourquoi. On s'est trompé de train, donc papa nous attendait depuis très longtemps. On a pris un train il fallait reprendre. Donc on a attendu je ne sais combien d'heures pour avoir l'autre. Et c'est de ce train d'ailleurs où a vu Mademoiselle Mann, qui était un nom de professeur français, qui a tout de suite envoyé un télégramme en disant « Une de mes élèves, avec sa sœur certainement, rentre à Pau, veillez sur elle. » Et donc, nous arrivons, et papa qui avait été accompagné de je ne sais combien, du maire, était seul, mais avec deux personnes, ou quatre personnes, très amaigries, et on descend du train, on nous dit qu'on va voir papa. Alors, on descend, et puis on nous accompagne, mais je dis, il n'est pas sur le quai. Alors, mais on ne réalisait même pas, on ne réalisait vraiment pas. Et donc, il y a effectivement un monsieur, puis maigre, très amaigri. Il avait des yeux, papa, bleus extraordinaires, puis il était très beau.
Oui, on a vu la photo.
Je vous ai montré la photo. Du coup, j'avais vu si elle existait, seulement cette photo. Alors, on arrive vers lui. Donc, il prend Mira dans ses... Il prend d'abord toutes les deux dans ses bras. Après, il prend l'une derrière l'autre. Et puis, moi, je lui dis... Je savais que papa était très coquet. Oh, je dis, papa, tu n'as pas changé. C'était plus lui. C'était plus... Je suis pour lui faire plaisir. Et d'abord, quand on est arrivé... Bon, on a été se coucher, toutes les deux, on n'arrivait pas à dormir. Il ouvrait la porte de notre chambre. S'il n'a pas ouvert 10 fois, il ne l'a pas ouvert une fois. Et il disait, vous êtes là, c'est tout. Et puis il refermait la porte, et puis il allait. Puis le matin, au petit déjeuner, il a dit, voilà. On a pris un petit déjeuner. Il nous a simplement demandé. Et maman et Liliane, il nous a serré un peu plus fort dans ses bras. Et puis simplement, il a dit, elles ont été sélectionnées. Puis il connaissait la vie des camps. Comment on a dit oui. Et puis on n'a plus jamais. D'ailleurs, on n'a plus jamais reparlé de maman et Liliane. Mais elle nous manque. Mais elles sont là. Oh merde. C'est moi, hein. J'arrive.
Non, mais... Attends.
Alors, attendez. Faut que je vais tirer. Oh. Attends, j'ai mal au nerf.
Tu veux que j'y aille?
Ils m'appelleront, attends. Oh, voilà. Oh. Oui, allô? Ah, donc je suis arrivée trop tard. Attends, je te demande qui c'est, hein.
Dora est enfin de retour à Pau. En l'écoutant nous raconter ce petit déjeuner, on revit en miroir la scène de leur arrestation, cette matinée plus d'un an auparavant. Ce père si fort et protecteur est toujours là, lui. La suite, c'est la vie qui reprend tant bien que mal, avec ce passé qui ne s'oubliera jamais, mais un présent qui s'accroche à elle.
Mira dit, écoute, Dora, tu vas, pour le moment, il faut que tu prépares ton bac. Et c'est très difficile de retrouver la mémoire. C'est terriblement... Moi, qui apprenais très vite, j'avais des professeurs qui étaient à Pau. Et qui, puisque c'était vers le mois de juin, et qui sont restés pour moi et pour me donner des cours. Mira me dit, Dora, ton objectif maintenant, il faut que tu aies ton bac.
Et du coup, tu l'as eu ce bac ?
Ouais, avec mention, avec mon ben tout, je vais te dire sincèrement, c'était un bac, c'était même comique, c'était un bac où il y avait des curés, c'était donc ceux qui avaient été déportés, mais je crois que j'étais la seule déportée, et il y avait de tous les âges, il y a un curé qui avait été prisonnier, il y en avait un autre qui avait été un résistant et qui avait drôlement souffert parce que il avait subi. Alors on était là. Bon, il n'y a pas eu d'oral, heureusement. Et on a eu un sujet fantastique. La fin justifie les moyens. À vous de... Moi, c'était vraiment un sujet pour moi. Hein. Alors, du coup, j'ai fait mon sujet. Et quand on est arrivé... Alors, j'étais à Fontainebleau. Et à Fontainebleau, j'étais dans une classe, il n'y avait que des petites snobinardes qui étaient toutes très, très bien habillées. Et moi, c'était mon professeur de latin qui m'avait emmenée là-bas, qui avait demandé à papa si elle pouvait m'emmener là-bas, habiter chez elle, et qui avait une amie, très, elles étaient ensemble toutes les deux, un autre professeur. Et à la récréation, elle venait, je l'aurais tuée, me donner des sandwichs avec... je faisais de l'anémie graisseuse déjà. J'étais très mal habillée, j'étais mal dans ma peau, puis j'étais mal. Puis j'avais pas besoin, moi, d'être là avec ces petits... Alors, du beurre et du miel. Alors, tout le monde se foutait de ma gueule, hein. On me regardait avec mon gros sandwich, je cherchais un endroit, et quand je trouvais... Moi qui avais été privée, Dieu sait si j'y étais, privée. Mais il était toujours enveloppé, un endroit où je pouvais le poser, où je pouvais pas le manger, ce sandwich. Bon, et puis il y avait eu ce sujet, on est en classe, donc en terminale, et notre prof nous demande... Dans les sujets. Et il nous dit, je voudrais, je vais vous lire un sujet. Je trouve que la note 19 n'est pas suffisante, mais il n'y en a pas tellement au-dessus. C'est vrai que c'était très bien écrit, en fait, c'était sur moi. Je n'ai pas nommé tellement de philosophes parce que j'avais vécu justement, je trouvais que la fin ne justifiait pas les moyens qu'il y avait quand même. Enfin, j'ai fait un très bon sujet. Alors il l'a lu. Et puis, alors, mademoiselle de Raguelon, voulez-vous vous lever ? Oh, j'étais tout au fond. Je me lève avec difficulté, et c'est là où il a lu. Alors, vous avez fait un sujet hors norme, extraordinaire. Je pense qu'on aurait certaines questions à vous poser. Vous ne rentrez pas dans le détail, mais j'avoue que je vais le lire, il n'avait pas encore lu. Et toutes les filles qui étaient devant moi, donc ces petites sauvinardes, qui me regardaient de haut, se sont retournées vers moi. Et quand on est parti, chacune est venue m'embrasser en me disant « Tu es quelqu'un de formidable ».
Et ensuite, tu as rencontré ton mari ou
et après, non.
Non, qu'est-ce qui s'est passé?
Après, si. Papa me présentait, je ne sais. Je sortais et il me présentait, je ne sais combien de garçons. Pour le mariage. Alors moi, il n'était même pas question. Déjà, j'y allais, soi-disant. Alors, il y en a eu un qui m'a emmené, je ne sais plus où, dans un resto moche comme tout, puis je n'arrêtais pas de bailler. Puis je lui ai dit, écoutez, vous savez, on va être simple, vous pourriez me ramener à la maison. Puis je suis arrivée à la maison, mais je n'y ai même pas question. Après, on me l'a présenté, mais j'ai dit à papa, mais tu sais, je ne veux pas me marier. Moi, je me marierai si je rencontre quelqu'un. Or, papa s'était remarié avec la femme que vous avez vue, qui avait deux fils. Gérard, qui est devenu mon mari, et je suis tombée très amoureuse de Gérard. J'avais 10... Attends, je ne sais même plus en quelle année, monsieur. Je devais avoir 18 ans ou 19 ans. Il avait un an de plus que moi ou deux ans de plus que moi. D'abord, non seulement il était très, et c'est vrai qu'il était très beau, mais il était très avenant. Il savait me ouvrir une... J'aimais bien cette espèce de politesse, pas forcée du tout. Mais j'étais une jeune, mais j'étais une femme à ses yeux, bon. Puis je le sentais comme un protecteur. Donc, alors un matin, il me téléphone. Il me dit, Dora, oui, ben écoute, je voulais te dire simplement... est-ce que ton père est à la... mais tel que hein, est-ce que ton père est à la maison ce matin? Alors moi je vais vers papa, je dis ben attends, je vais lui demander. Non ben écoute, tu lui dis simplement que je vais venir parce que je vais lui demander ta main, et il raccroche. Mais je dis bon, il est fou. Je file chez ma sœur parce que j'ai très souvent depuis qu'elle avait son bébé, je voulais garder son bébé, mais je cours chez elle. Elle était à la maison. Je lui dis Mira, écoute, figure-toi que Gérard vient, m'a téléphoné en demandant si papa était là. Il a dit qu'il allait demander ma main. Alors il y a ma sœur qui est très... Mais t'es amoureuse de lui? Je dis oui, mais tu sais... Mais écoute Dora, c'est quand même un moment très difficile. Il faut bien que tu réfléchisses. Il est très jeune, vous êtes très jeunes tous les deux. Oh, j'ai dit, écoute, Mira, tu ne vas pas commencer. Hein. Il va demander ma main. Je suis venue parce que pour te dire comme j'étais heureuse. Ne commence pas à me dire mais ceci, mais cela. Alors elle me dit, Dora, tu sais, comme je c'est vrai, ma sœur, on s'aimait beaucoup, puis c'était ma grande sœur. Et je dois dire que je l'adorais. On n'avait que 3 ans de différence, mais c'était ma grande sœur quand même. Alors, je lui dis, Mira, tu ne vas pas commencer. Eh bien, moi, tu vois, je suis très contente. Je suis même très heureuse. Alors, je reviens à la maison. Et papa me dit, voilà, Dora. Gérard est venu me voir. D'abord, j'ai trouvé mal élevé qu'il n'ait pas de gants pour me... des gants blancs, comme on compte. Il n'avait même pas mis de gants blancs pour demander ta main. Je lui dis, c'est tout ce que tu lui as trouvé. Alors il rigole, il dit non. Il a l'air de t'aimer. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Tu sais, ça demande. Tu es très jeune, il est très jeune. Tu peux réfléchir un petit peu. Attends un petit peu. J'ai dit, je veux pas attendre, je veux qu'il nous fiançaille. Je veux pas. J'étais amoureuse, il était amoureux de moi. Déjà pour le mariage civil, j'avais un chapeau, j'avais un très joli tailleur. C'était d'ailleurs ma belle-mère, la femme de papa, qui s'était occupée vraiment de moi d'une façon formidable. Et alors, à l'époque, on faisait sur mesure, et elle m'avait fait faire sur mesure. J'avais un très joli tailleur à rayures, et j'avais choisi un chapeau avec des fleurs et un oiseau. Quand on est arrivé à la mairie, je me rappellerai toujours, Gérard me regarde. Alors, je sais très bien, il me dit, oh, Dora, tu es ravie. Je lui dis, qu'est-ce que tu as sur la tête? Je lui dis, c'est un chapeau. C'est un chapeau, ça? Est-ce que quelqu'un aurait ou des ciseaux ou un couteau? Il a dit, alors, je veux bien que tu le portes, mais rien dessus. Et il a presque arraché les fleurs, les ciseaux. Je remarque qu'en définitive, il a eu raison. Enfin, ça a été d'une gaieté extraordinaire. Ensuite, ils avaient retenu dans une boîte, papa n'était pas tellement d'accord, mais c'était une boîte où on a dansé jusqu'au matin. Alors, ça a été un mariage très gai, et je dois dire que j'ai été une femme. Mais en définitive, j'ai été... Ben, je crois que c'est la joie qui vient au-dessus de tout.
Et ensuite, vous avez eu des enfants, du coup, peu de temps après?
Alors, j'ai eu Martine 3 ans après notre mariage. J'ai eu Martine en premier, Patricia en second et Mathia en troisième. Mathia, c'est le petit que vous voyez là-bas sur la grande affiche.
Oui, ouais.
Le tout petit avec des cheveux très frisés. Oui. Et c'est vrai que les femmes, on est beaucoup plus touchées. On n'est pas des pleurnicheuses. Moi, j'estime que les femmes ne sont pas des pleurnicheuses. On est quand même des bagarreuses. Parce que déjà, on s'est bien bagarré. Déjà, c'était pas marrant d'accoucher sans péridurale. Moi, j'avais tellement peur de la péridurale que, en définitive, j'ai dit, je vais accoucher sans péridurale. Et puis...
Et 3 fois?
Non. Ben, j'ai compris. Puis après, j'ai dit, après, j'avais la trouille de la péridurale. J'ai dit, j'arrêtais pas de dire... Vous allez me la faire au bon endroit, surtout. Mais, je me rappelle, c'est dur. Enfin, moi, je sais que, en définitive, non, ça a été très vite, même, sans péridurale, le troisième accouchement, ça vient beaucoup plus vite. Oui, parce qu'à peine je rentre à la clinique, je respire à la respiration. Alors, qu'est-ce que je l'ai usé, abusé. Puis tout d'un coup, j'ai juste entendu pouce, pouce, pouce. Puis elle est venue. Puis il est venu. Puis c'est Martine qui est venue en premier. Mais je trouve que c'est formidable. Moi, j'ai trouvé que c'était formidable.
Tu prenais une contraception à l'époque?
Oui, bien sûr. Alors là, quand je suis rentrée, oui. Et puis c'était des pilules. Oui, et puis après l'histoire... Après, on m'en donnait une qu'il fallait prendre un soir et j'avais complètement oublié. Puis après, j'ai dit, j'en ai marre. J'ai quand même fait une fausse couche. Je suis tombée sur quelqu'un d'extraordinaire. Une femme... Je suis allée la voir et j'ai dit, j'ai 3 enfants. Je crois que je suis enceinte, je lui dis. Alors elle me dit, bah, c'est facile à savoir. Elle demande mes dates et puis on fait tout de suite. Elle me dit, oui, vous êtes sûre que vous... Je dis, je crois que je suis sûre. Elle dit, non, Je crois que je suis sûre, c'est pas une réponse. Ou vous êtes vraiment sûre, vous avez encore le temps, parce que à partir d'un certain temps, bon, vous revenez me voir, et puis là, puis j'en avais même pas parlé à Gérard. Non, j'ai dit non, j'ai mes trois enfants. Non, j'avais peur de ne pas pouvoir être à la tête de ce petit régiment que j'avais, de ne pas être à la hauteur. Alors je suis allée la voir, ça s'est passé d'ailleurs merveilleusement bien, très très bien, et puis je sais qu'on avait une sortie le soir, et alors j'ai dit à Gérard, tout s'est bien passé, parce que je l'ai mis au courant aussi, et puis on devait sortir, puis je voulais absolument sortir parce que j'avais une nouvelle robe, tu parles, il m'a ramené à la maison presque inanimée, je me suis presque trouvée mal. Il m'a dit, mais t'es complètement folle, Dorée, moi j'aurais jamais dit, tu te reposes, on a téléphoné, tu allais très bien. Bon, ça s'est très très bien passé, puis j'ai arrêté, d'accord. Et je trouvais que, mais et je ne regrette absolument pas.
Et le combat de Simone Veil pour la légalisation de l'avortement,
Mais comment elle a été? On l'a accusée d'avoir jeté des enfants, mais elle a été extraordinaire. Je trouve que c'est très bien qu'elle a donné une loi qui est parfaite. Elle a fait beaucoup pour la femme. Et elle a été traînée dans la boue.
Du coup, c'est que tu ne pouvais pas travailler ou...
Alors, à l'époque, tu sais, les femmes ne travaillaient pas. Mais j'avais un travail déjà à temps complet. Et j'aurais pu avoir, justement... Ah ben, c'est là où alors j'aurais pu être vendeuse, tu vois, ça ne m'intéressait pas. J'avais envie d'écrire, moi. Alors, je me suis mis à écrire. J'avais besoin d'écrire. Puis, en définitive, mon livre est sorti.
T'avais quel âge?
Ah, ben, il n'y a pas tellement longtemps. Je suis là. Attends, où est-ce que je suis? Tiens, tu vois la photo que tu vois à côté de la petite pendule?
Oui.
Eh ben, on m'a photographié le jour où j'ai signé mon bouquin.
D'accord.
Alors, il a été signé il y a... Quand est-ce que je l'ai vu? Ça va faire 10 ans, peut-être. Ouais. Un présent qui s'accroche à moi.
D'accord.
C'est ce que je disais tout à l'heure.
Oui.
Le présent. Alors on m'a dit, pourquoi ce titre? J'ai dit, parce qu'il n'y a pas de... Le présent est là, mais il n'y a pas de présent sans le passé. Donc, le présent est là grâce au passé. Je ne suis pas contre les hommes, pas du tout. Et j'ai eu la chance d'avoir un mari extraordinaire, un père. Alors là, je dois dire encore... Mais je crois... que nous avons en nous une capacité de vie et de défense. Peut-être parce que nous mettons des enfants au monde, je ne sais pas, mais exceptionnelle quand même. Les femmes sont beaucoup plus résistantes que les hommes, et c'est vrai. Les femmes sont beaucoup plus résistantes, mais dans la vie courante même. Une femme qui a un cancer luttera avec beaucoup plus de force, un homme sera beaucoup plus vite désespéré. Il y a un tas d'exemples. Donc, moi, je suis très contente d'être une femme. Je continue même à faire des pompes. Non, c'est vrai, en plus, alors là, on a fait rire avec Clara. On a été à un dîner, et puis, je ne sais plus, il y avait les frères de Clara qui se trouvaient là, et qui disaient, oh, écoute, alors Dora, toi, on doit dire que tu es vraiment... C'est vrai que tu fais des pompes. Oh, je dis, c'est vrai, j'étais en jupe, hein. J'avais des colons quand même. J'enlève mes godasses et je leur fais quand même 10 pompes. Hein. Ouais. J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance parce que je ne me sens pas seule. Je ne sais pas si vous aviez vu cette pièce, je ne sais plus comment ça s'appelait, où tout le monde se voit, il y a la grand-mère qui est là. Et... Tout à coup, les enfants se disent au revoir et puis elles vont se coucher. Il y en a une qui dit, on a oublié grand-mère. Et grand-mère, la pauvre, elle attendait qu'on la monte. Elle était dans son...
Non, mais pas
non, on risque pas d'oublier grand-mère. Hein.
Voilà, vous venez d'écouter Dora, une merveilleuse rencontre de 2019. Une de celles qui vous donne les frissons, le sourire aux lèvres et l'envie de croquer la vie. En quittant Dora, nous aussi on espère faire des pompes à 92 ans. Et nous aussi on veut rire, toujours, quoi que la vie nous réserve. Dora est une vraie leçon de vie, une chance aussi, celle d'avoir croisé sa route. Alors merci. Merci Dora pour ce moment, merci de diffuser cette force et de nous en donner un peu. Merci de nous partager ta vie pour enrichir la nôtre. À vous maintenant, si cette histoire vous touche, de la diffuser pour la faire vivre encore.
Je crois qu'en définitive, quand je pense à toute cette époque, j'en retiens surtout l'amour de la vie.
Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Debois et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piqué par les orties de cette vie de Mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts, ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter. Surtout, allez-y. Trouvez-nous sur les réseaux, @mamiepodcast, et par mail, bonjour@mamiedanslesorties.co. À bientôt.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.